Il est 18h15 à Niamey, l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou. Les programmes Dissidio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes disponibles également sur notre page Facebook Dissidio Kalangou, notre site internet www.dissidiokalangou.org et sur WhatsApp. L'enseignement défi de la révalorisation de la fonction et partage des coûts de l'éducation, c'est la thématique du jour au cours de ce forum Dissidio Kalangou. Les enseignants contractuels du primaire et du secondaire constituent aujourd'hui l'écrasante majorité du personnel enseignant créé en main. Ce sont 17,7% au primaire en 2015 et 66,7% au secondaire en 2016. Ces contractuels travaillent dans les mêmes conditions que les enseignants titulaires et ont les mêmes charge horreur avec un salaire nettement inférieur. Cependant, la gestion des enseignants contractuels est assez difficile à cause des abandons à tout moment de l'année scolaire et pour diverses autres raisons sans préavis. Pour développer cette thématique, nous avons le plaisir de recevoir Kassoum Issa, ancien syndicaliste et ancien secrétaire général adjoint du ministère des enseignements secondaires. Kassoum Issa, bonsoir.
Bonsoir.
Issoufou Arzika, secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger ISNEN et coordonnateur de la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation au Niger FUSEN, Issoufou Arzika. Bonsoir.
Bonsoir, Mokhtar.
Et Maman Salia Ibrahim, co-coordonnateur de la Synergie Cause Niger SINASEB. Maman Salia Ibrahim, bonsoir.
Bonsoir.
Au microphone, votre serviteur Mokhtar Hamadou. Kassoum Issa, comment on devient enseignant aujourd'hui au Niger?
Permettez-moi d'abord de faire d'habitude comme tout le monde, vous remercier Studio Kalangou et vous-même Monsieur Mokhtar pour tout ce que vous faites pour la promotion d'une éducation équitable de qualité pour tous les enfants de notre pays. Merci pour tous ces efforts et pour votre contribution à la noblesse de notre noble métier. Et la question de l'enseignement dans notre pays, lorsque vous la ramenez à l'actualité, à aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si il y a une différence entre devenir enseignant avant et devenir enseignant aujourd'hui. Peut-être il faut juste contextualiser, mais sinon, à la limite, un enseignant, il reste et demeure toujours un enseignant. Mais quand vous parlez d'aujourd'hui, je pense que, comme hier, un enseignant, d'abord, il doit réunir un certain nombre de qualités. Et les conditions qui reposent sur ces qualités de l'enseignant, c'est que d'abord, c'est quelqu'un qui doit jouer de toutes ses facultés, d'abord physique, mentale et même spirituelle. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas être enseignant tant que tu n'es pas un homme vraiment posé.
Un modèle en un mot.
Un modèle, c'est-à-dire, il faut que la société puisse t'inspirer confiance pour qu'on puisse te confier le devenir donc, de cette société-là. C'est quoi le devenir de cette société? C'est les enfants. Tout l'avenir repose sur l'enfance, sur les enfants, donc, qu'on confie à cet enseignant-là. La deuxième condition, il faut que vous suivez un minimum de cursus. Le cursus qu'il faut avoir, c'est d'abord atteindre un certain niveau. Le niveau, ça dépend des pays. Dans certains pays, à partir du niveau 5e de collège, 4e, 3e de collège, directement, on pense que vous pouvez être réceptible à une formation pour devenir un formateur, un éducateur ou un enseignant. Et dans certains pays, il vous faut un minimum d'un diplôme équivalent au BEPC comme chez nous. Et ensuite, ailleurs, on exige le niveau bac. Mais nous avons vu pour être instituteur en Amérique centrale, par exemple, il vous faut d'abord craquer votre licence. C'est à partir de la licence que vous allez recevoir une formation de 3 ans pour devenir un enseignant, pour recevoir la formation pour être un enseignant. Donc cela veut dire que d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, selon les objectifs et les orientations donc du pays, on peut dire que voilà le niveau minimum pour mettre quelqu'un dans une situation de formation pour devenir un enseignant. La formation initiale, elle est capitale pour un enseignant, parce que même lorsqu'on parle de l'expérience, souvent on dit que non, il a 15 ans d'expérience, cela c'est un enseignant expérimenté, il a 20 ans. Tous les spécialistes en sciences de l'éducation se sont accordés ou s'accordent à dire que même l'expérience, elle ne peut être tassée que lorsque on a une formation initiale. Lorsque vous n'avez pas une formation initiale, vous ne pouvez même pas capitaliser l'expérience parce que vous sèmez à tout vent. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Donc, il vous faut une formation initiale. Et c'est en ce moment que chaque heure, chaque jour que Dieu fait lorsque vous enseignez, vous apprenez chaque jour à travers des lacunes que vous-même vous pouvez corriger. Et lorsque vous avez cette formation initiale, vous sortez des écoles de formation, on estime que sur le terrain, vous allez promettre d'être un enseignant. Jusqu'à 20 ans, 30 ans d'enseignement, c'est que l'enseignant est toujours dans un chemin de promesse de devenir un bon enseignant. Vous n'avez jamais vu sur un bulletin d'inspection pédagogique où on a dit que monsieur Intel est un bon enseignant. On dit toujours, il promet d'être un bon enseignant si il améliorait ceci, cela, ceci, cela.
Donc c'est un processus.
C'est un processus. Donc voilà comment effectivement on peut venir pour dire qu'il faut recruter un enseignant. Et je pense que depuis les années 1960, jusqu'à aujourd'hui où on a assisté au recrutement en 98 des volontaires de l'éducation qui, plus tard, ont muté pour devenir des contractuels.
En 2003.
Mais vous allez voir que dans les textes, jamais l'État n'a dit que nous devons recruter au Niger ceux qui n'ont pas le BEPC ou la formation. On dit toujours, d'abord, il faut le BEPC, il faut une formation. Mais dans les pratiques, effectivement, puisque vous dites aujourd'hui, je comprends bien que c'est ça, il faut contextualiser. Il y a ce que les textes disent et il y a nos propres pratiques qui dérogent souvent. Et là aussi, certainement dans le débat, nous verrons les difficultés qui ont fait qu'à un certain moment, nous avons fait l'option des choix tacites, même si ce n'est pas écrit, de recruter effectivement ce genre d'enseignants sans pour autant que les textes ou les normes nous demandent de faire ce que nous avons fait.
Kassim Issa, pourquoi parle-t-on encore de contractualisation de l'éducation 15 ans après sa mise en œuvre?
Vous savez, au fait, depuis qu'on a créé l'école, le contrat, ça, c'est des textes juridiques qui lient juste un employeur à un employé. En fait, il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait de contractuel parce que depuis que le système éducatif du Niger était né, il y avait des contrats que les gens signaient. Il y avait des vacataires. Il y a des contractuels qui venaient de partout le monde qui avaient ou des contrats à durée déterminée ou des contrats à durée indéterminée qui étaient restés professeurs dans nos collèges, des enseignants, tout ça là. Souvent, ils viennent des États-Unis. Souvent, c'est des Peace Corps. Souvent, ils viennent de la France. De tous les pays amis de notre pays, on a connu des contrats dans le système éducatif. Ici, la connotation contractuelle a été liée à une option de facilité, celle qui a consisté à une certaine époque à faire que nos États ont fait des options de choix de la facilité vers l'exigence aussi, pour la satisfaction de l'exigence du droit à l'éducation des enfants. Parce qu'à partir de 2000, vous savez que les États se sont réunis à Dakar. Et à Dakar, les États ont décidé que aucun enfant en âge d'aller à l'école ne doit rester chez lui. Il doit se mettre en situation d'éducation. Alors que pendant ce temps, quand vous revenez dans les pays comme le Niger, vous allez découvrir que toutes les écoles de formation étaient systématiquement fermées. Et comment des États vont se réveiller en 2000 après que certains pour 4 ans, certains pour 5 ans, d'autres même pour 10 ans, parce que la contractualisation a été expérimentée en Afrique occidentale française, donc dans l'espace francophone de l'Afrique, depuis 1982 au Sénégal. Et là, maintenant, on a formé les centres de formation, comme si la formation, en fait, n'avait aucun input sur la qualification d'un enseignant. Et finalement, on dit que les contractuels, il faut les recruter, même s'ils n'ont pas de formation initiale. Et voilà comment la connotation contractuelle n'est pas liée à un contrat de travail, mais elle est liée à la qualité de ceux qui animent nos écoles.
Donc en soi, c'est pas une mauvaise chose.
Mais le contrat, je suis libre de signer un contrat. Mais ce qui est mis dans contractuel, là, dans le mot contractuel, là, façon de prendre quelqu'un qui n'a même pas de qualification, le prendre encore de façon précaire et le rejeter sans que lui, elle en fasse l'option parce que c'est tout ce qu'on lui offre. Alors qu'avant, à côté des contractuels, vous avez toujours les enseignants aussi que l'État recrute directement son fonctionnaire. Même aujourd'hui, ça se fait parce que depuis quand même la réouverture de l'école normale supérieure, aujourd'hui, les enseignants du secondaire, ils ont eu une facilité pour que directement au sortir, une fois qu'ils s'engagent à aller animer nos établissements d'enseignement de proximité au niveau du monde rural, directement, il faut leur donner un matricule. Donc, eux, ils ne sont pas des contractuels. Donc, voilà, en fait, la connotation contractuelle, mais nos États États n'ont aucune obligation de rester dans la forme du contrat actuel. Non seulement financièrement, nous ne gagnons rien, parce que ce que les contractuels gagnent aujourd'hui, je suis sûr que si on les ramenait à une grille salariale de la fonction publique, ils ne toucheraient pas ce qu'ils sont en train de toucher actuellement. Directement en première année. Maintenant, c'est juste une progression et sécuriser leur emploi. Donc, l'État ne gagne rien financièrement dans la contractualisation actuelle du point de vue financier. Et maintenant, qu'est-ce que l'État gagne en ayant des employés ou des travailleurs de l'éducation, un personnel de l'éducation qui vit dans une précarité de l'emploi? Parce que même si on triplait ou quadriplait le salaire de ces enseignants-là, c'est qui est sûr, ils pensent à leur retraite, ils ne sont pas en sécurité, ils vont partir quand ils veulent, alors que le métier de l'enseignement, ce n'est pas un métier qu'on peut abandonner à tout moment. Tu as une obligation, même normalement, de finir l'année, parce que les enfants qu'on t'a confiés, lorsque tu les abandonnes heure par heure, jour pour jour, c'est que c'est un tort énorme que tu commets à la nation, et au point où, tant que ce n'est pas cas de force majeure, maladie grave avérée ou la mort, on ne doit pas laisser une situation de non-école quelque part. Donc les enfants en pâtissent, le pays perd énormément, donc on ne peut pas garder des employés comme ça qui vont partir quand ils veulent, qui peuvent abandonner pour aller chercher d'autres emplois. Mais je pense que cette forme, en tout cas, que ce soit financièrement, que ce soit sur le plan de la qualité, sur le plan de la rentabilité, l'État perd sur tous les plans en maintenant le système de la contractualisation actuelle.
Issoufou Warzika, dans quelles conditions travaillent aujourd'hui les enseignants au Niger?
Merci aussi, comme pour répéter le grand frère Kassoum, de l'effort que vous faites dans le cadre de l'éducation. Dans quelles conditions travaillent les contractuels? En fait, les contractuels travaillent dans les mêmes conditions de difficulté que les titulaires. Et vous l'avez annoncé, ils ont le même volume horaire, ils ont les mêmes charges, les mêmes devoirs. On a attendu les mêmes résultats que les contractuels, mais en termes d'input aussi, parce que même au niveau humain, il y a un certain input qui est le salaire. Et là, c'est l'aspect matériel, mais aussi il y a un input psychologique qui est de savoir que sa carrière est quelque part sécurisée, stabilisée, pérennisée. Malheureusement, ces conditions-là ne sont pas garanties au niveau des enseignants contractuels, celles qui forment la majorité du corps qui a la clé en main actuellement. Ils vivent dans les mêmes conditions pratiquement matérielles, de charges et de tout, mais à la différence des enseignants titulaires, c'est que qui sont minoritaires depuis un certain temps, et c'est que eux, leur salaire, bien là, peut-être je suis un peu en déphasage avec le grand frère, et parce qu'il y a les enseignants du secondaire, et y compris les enseignants du primaire à l'heure actuelle, vu les augmentations des indemnités qu'il y a eu, quand on leur donne le salaire indiciel qui est très en deçà, ça c'est vrai, du pécule.
Les enseignants contractuels ont des indemnités?
Oui, ils ont des indemnités. Ils ont des indemnités, bien sûr, mais bon, pas autant que les titulaires. Ils ont des indemnités. Alors, je dis, si on leur garde le salaire indiciel, qui est, c'est-à-dire au début, qui est en deçà du pécule, plus maintenant les indemnités qui ont vraiment connu une certaine progression depuis un certain temps, il faut reconnaître que leur salaire va un peu augmenter. Au niveau du secondaire aussi, c'est pareil. Et, sauf que, ou peut-être je vais abonder dans le même sens, c'est que dans certains débats qu'on a eu avec le gouvernement, on lui a démontré qu'il suffit que le gouvernement ajoute un peu sur la masse salariale des contractuels et peut les engager à la fonction publique. Il n'a pas ajouté beaucoup. Parce que ce qu'il leur paye déjà est à côté du salaire, pour la plupart d'entre eux. Donc, il suffit de faire un calcul. Que de laisser ces personnels-là dans une certaine psychose de précarité, le terme convient très bien, où il suffit d'un peu pour qu'ils décident de quitter, ou il suffit d'un peu pour qu'un agent à un quelconque niveau de responsabilité, aussi petit qu'il soit, puisse relever de ses fonctions ou même résilier un contractuel, je crois qu'il faut les engager carrément et accepter de voter une enveloppe additive.
Oui, quand on vient de le dire que sur tous les plans, c'est l'État qui perd, l'État perd.
Bien sûr. Au début, si cette option de contractualisation avait été applaudie, c'était par les gouvernants. Je me rappelle bien, à l'époque, le Sénat avait rejeté carrément la contractualisation, le volontariat. On avait mal compris, on est parti dans tous les sens pour dire que bon, le Sénat ne veut pas que la jeunesse nigérienne gagne du travail. Et nous, à l'époque, on comprenait très bien notre syndicat qui était contre justement ces systèmes, parce que pour nous, c'est un traitement et au rabais des enseignants. Et on ne sait pas qui va venir dans une profession enseignante, alors qu'on a ce dicton qui dit qu'on peut enseigner tout le monde, mais tout le monde ne peut pas enseigner. Malheureusement, on a fait fi de tout cela. Et nous avons eu malheureusement cette vague de volontaires qui étaient venus à travers la création de leur propre structure syndicale et qui s'étaient complètement redressés contre le Sénat. Ça, il faut le dire. Et qui ont gardé sa rancune. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup qui croient que le Sénat est leur ennemi parce qu'il n'a pas voulu qu'on leur donne emploi. Aujourd'hui, quelques années après, le gouvernement et eux-mêmes
les concernés et leurs structures sera ligne sur la ligne que le Sénat avait vue depuis longtemps. Depuis longtemps. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il faut carrément arrêter la contractualisation. Certains pays se sont rendus compte que c'est une perte. Ils l'ont arrêté. Ils ont intégré tous les contractuels de leur pays. Mais ce qui est chez nous, à la différence, le traitement salarial même est vraiment précaire. Il est dérisoire parce qu'il faut voir. Au Burkina, je ne sais pas si c'était en quelle année, ça coïncidait, j'étais là-bas à un atelier, ça coïncidait avec l'intégration de tous les contractuels de la fonction publique. Alors j'étais avec mes amis syndicalistes, ils ont dit qu'ils sont en négociation avec le gouvernement parce que les titulaires sont en train de négocier qu'on rehausse leur salaire. Ils sont d'accord qu'on abolisse carrément la contractualisation. Permettez-moi de dire le terme abolir parce que moi j'ai dit toujours que c'est une maltraitance de l'enseignant. La contractualisation est une maltraitance de l'enseignant et même de l'enseignement. Mais les politiques voulaient une main d'œuvre au rabais. Alors il fallait aller à l'enseignement de masse, il fallait recruter beaucoup de contractuels pour que chaque enfant.
Il y a les défis de la qualité aussi.
Il y a les défis de la qualité. Il y a les défis aussi du respect du droit à l'éducation de chaque enfant nigérien a droit à un enseignant. Ben, on a mis ça en vrac et puis on est parti. On a recruté beaucoup d'enseignants. Finalement, on est en train de constater qu'on est parti trop loin. On aurait pu progressivement arrêter la contractualisation, progressivement, à travers en tout cas un recrutement massif, de manière que l'homme de contractuel qu'on injecte dans le système est nettement inférieur à celui qu'on recrute à la fonction. Mais l'État n'a pas voulu faire ça. Il l'a écrit dans sa lettre de politique éducative qu'il va mettre fin à la contractualisation. Mais dans les faits, à l'heure actuelle, avec le degré de recrutement qu'on a d'ailleurs arrêté carrément, il n'est pas évident. Sauf si en 2019, le gouvernement va se rattraper. Je disais qu'en Burkina, vous savez ce qu'ils étaient en train de négocier ? Ils étaient en train de négocier qu'on rehausse, oui d'accord, on arrête le contrat, mais qu'on rehausse leur salaire au niveau de celui des contractuels. Parce que là-bas, les contractuels sont mieux payés que les titulaires. Oui. Et là, ils disent oui, si vous les ramenez, il ne faut pas que j'ai la même catégorie qu'un ancien contractuel nouvellement intégré et que j'ai un salaire plus bas que lui. On a amené le même niveau de salaire et on a intégré tous les contractuels à la fonction publique. Je ne connais pas leur nombre, mais je crois que c'est ce qu'on devrait faire. Au Mali, eux, ils ont aligné les contractuels du Mali sur presque le même traitement salarial que les fonctionnaires. De sorte que dès qu'on t'intègre, tu ne sentiras absolument rien et tu ne perds rien de la carrière. Nous avons prôné tout cela ici au niveau de l'État, mais ça n'a pas marché. Sauf que maintenant, l'État est extrêmement soucieux de finir avec le contrat. Donc, nous allons les accompagner. Parce que les deux conditions, la matérielle et psychologique, je vous assure, sont un élément très entravant dans la qualité de l'enseignement. Parce qu'il faudrait bien que le contractuel qui est venu à la fonction publique avec la promesse que 4 ans après, on va l'intégrer à la fonction publique, il est resté malgré les conditions. Et beaucoup aujourd'hui, ils sont plus d'un millier qui ont dépassé l'âge d'être recrutés à enseigner en tant que contractuel. C'est vrai, on a plaidé leur cause, l'État a accepté de les intégrer parce qu'ils disent que c'est une équité sociale. Ils vont voir quels sont les textes et les articles qu'il faut toucher pour les intégrer. Mais pour la plupart qui sont là aujourd'hui, ils ne savent pas comment faire. Le recrutement n'est pas en train d'être fait. Ils sont là contractuels. Ici, aujourd'hui ou demain, ils sont susceptibles d'être chassés. Donc je crois qu'il faut arrêter carrément, intégrer tout le monde, à accepter de voter une enveloppe qui va faire en sorte qu'on mette un terme au contrat. Peut-être à ce moment-là, les défis de la qualité vont être...
Alors, Issoufou Artika, quels sont les défis de la qualité de l'éducation au Niger ?
Ils sont nombreux, d'autant plus que tous les indicateurs, enfin pas tous, mais les indicateurs essentiels, je peux prendre deux, c'est celle du niveau des enseignants et celle des acquis scolaires. En toute franchise, ne sont pas agréables à regarder ni à lire. Le niveau des enseignants est très bas parce que la formation à l'école normale, on en a créé beaucoup, malheureusement. D'abord, nos écoles normales sont des écoles normales faisant fonction. Elles ne sont pas des écoles normales professionnelles. Parce qu'on peut prendre un sociologue qui a fait juste la sociologie. Lui-même n'a pas de pédagogie. On lui dit d'aller faire un enseignement général au niveau des écoles normales. Et peut-être quand on envoie les conseillers pédagogiques et les inspecteurs, ça pouvait marcher. Mais malheureusement, la plupart, celui qui fait morale professionnelle n'est pas forcément un professionnel de l'éducation. C'est peut-être qu'il a fait la psychologie, on lui dit d'aller faire morale. Ou il est enseignant de français, on lui dit d'aller enseigner morale professionnelle. Donc nos écoles normales, y compris de leur administration, sont intégralement des écoles normales faisant fonction. C'est vrai, elles ont produit ce qu'elles ont produit, mais au fur et à mesure qu'on passait, les enseignants et même les formateurs n'ayant pas le niveau requis par rapport aux anciens, voyez-vous, on est parti à produire des enseignants qui n'ont pas eux-mêmes les niveaux pour former. Je vous assure, il peut arriver qu'au terme de la formation à l'école normale, 80% des enseignants, quand vous leur dites de vous faire une fiche pédagogique, ils ne peuvent pas le faire. Préparer une leçon, ils ne peuvent pas le faire. Nous, on a été à l'école normale. On a été à des stages où la majorité du groupe qu'on composait disait qu'ils doivent présenter une leçon. Ils ne savent pas comment on prépare une leçon. Or, on a fini le cycle. Ce problème-là se pose. C'est pourquoi, peut-être, au sortir de l'école normale, je crois que la pratique voudra qu'on dise à chaque enseignant qu'il s'assied devant une classe, qu'il prépare une fiche. S'il ne le peut pas, il faut le ramener. Ça veut dire qu'il n'a rien compris. J'ai dit cette formation-là a fait qu'on a eu des enseignants qui n'ont pas le bon niveau. Ensuite, le système éducatif lui-même produisant des brevetés et des bacheliers qui n'ont pas les niveaux, naturellement, ils vont venir à l'école normale où la formation n'est pas pas très garanti, sortir avec un niveau d'enseignant, un niveau pédagogique très bas, venir sur le terrain, dispenser quelle sorte d'enseignement? Eh bien, cette chaîne, malheureusement, est devenue un cycle infernal. Et le produit est là aujourd'hui. Les élèves eux-mêmes n'ont pas ce niveau parce que quand on n'est pas qualifié, on ne peut pas produire de la qualité. Le Niger a fait un effort. Mais malheureusement, je ne crois pas qu'on soit encore au rendez-vous d'un système éducatif valablement, intégralement nigérien. Ça reste encore. Parce que quand votre financement n'est pas domestique, il n'est pas propre à vous, il va de soi que le partenaire souvent vient édicter comment il veut qu'on utilise son argent. L'autre aspect, c'est la question des acquis scolaires. Sur la question des acquis scolaires, je vous assure que pour remédier, ça je l'ai dit en 2016, je vais le redire ici. J'avais parlé d'un plan B pour l'éducation. Il y a eu un débat entre moi et un technicien du ministère à l'époque, parce que ça l'a fait rire, il dit qu'il y avait le PSAF. J'ai dit non, le PSAF est un programme téléral. Moi je crois que l'état d'urgence dans lequel on est dans le système éducatif, il nous faut aller vers une réforme d'urgence ou un plan d'urgence. C'était l'expression que j'avais utilisée, le débat est encore là. J'ai été content de voir, même si ça n'a pas été fait tel que nous l'avions nous voulu, de voir que l'enseignement primaire a adopté, bon, tous azimuts, un programme du programme d'urgence qui ne prenait pas en compte forcément tous les défis, mais qui déjà dans sa mise en application de l'évaluation sur table qu'on a faite aux élèves, hein, on a vu que le niveau des élèves qui ont suivi le programme d'urgence avait été élevé en termes de lecture et en termes d'acquis mathématiques. Mais alors pourquoi ne pas formaliser ça et faire un programme proprement dit tel que nous sommes en train de le penser, parce que nous pensons qu'il faut prendre les trois premiers niveaux de l'enseignement primaire, en toute franchise, revoir la densité du programme, donner aux enfants le nécessaire. Si un enfant passe au CE1 avec un très bon niveau, vous pouvez le déposer au CM2. Et je vous assure, il comprendra et fera mieux qu'un enfant qui a suivi le programme bateau tel qu'on est en train de l'enseigner présentement. Même s'il ne demeure pas au certificat, je suis sûr qu'il fera mieux que les élèves actuels. Ou bon, le passage s'est fait d'une manière ou d'une autre. Donc pour nous, il faut s'asseoir, il faut arrêter. On ne peut pas continuer. Ça ne marchait pas, on ne peut pas continuer à aller. Il faut s'arrêter, avoir le courage de dire, voilà, on fait une pause, on reprend. On peut remédier pour le stock qui est là, parce qu'il y a un stock, il faut le prendre en charge. Mais à partir de telle année, les trois premiers niveaux, il faut qu'on mette les enseignants de ce niveau-là dans les conditions d'un programme allégé qui donnera à l'enfant le minimum pour qu'il puisse continuer. Et je sais que cette horde-là qui va commencer, c'est peut-être en 3 ans, on peut faire ça en 3 ans seulement.
Maman Salia Ibrahim, après 5 ans de volontariat et 15 ans de contractualisation, pourquoi ça ne marche pas toujours au Niger?
Donc, merci Mokhtar, merci aussi au studio Kalangou qui nous donne ici l'occasion de nous exprimer sur notre secteur et surtout une question cruciale, la question des défis de notre système éducatif. Nous sommes à 2-3 jours de la commémoration de la Journée mondiale de l'enseignant et cette journée est symbolique parce que elle parle de la condition enseignante. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les débats autour de notre système éducatif ne peuvent pas se faire sans la question de la condition enseignante qui implique la contractualisation et bien d'autres sujets. Personnellement, je pense que nous sommes dans une situation de bilan général. Je me rappelle une année, nous faisions un débat autour des états généraux du système éducatif nigérien. On avait pensé à un moment donné que ça allait même se concrétiser, mais pour des questions de financement, je pense, hein, selon les informations que j'ai, ces états généraux n'ont pas eu lieu. Et nous sommes en train de faire ça plus ou moins de manière séparée. Mais malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, nous avons l'impression que chacun tire les draps de son côté. Moi, je pense que le problème de notre système éducatif aujourd'hui est un problème de tous, à commencer par nos autorités. Les politiques qui sont en train d'être menées par nos autorités, par l'État nigérien dans le cadre de l'éducation. Si nous prenons au niveau africain, partout au niveau africain, les systèmes éducatifs sont confrontés à des problèmes. Je me rappelle, pour illustrer, en janvier 2018, il y a eu un forum des chefs d'État sur les financements de l'éducation en Afrique. Et je me rappelle des propos du président ghanéen qui disait en substance que c'est honteux pour eux de se réunir et de continuer à compter au niveau africain sur des partenaires, des occidentaux pour financer leur système éducatif. Parce qu'il faut parler de ça. Je vais venir au fond au Niger, ce qui se passe. Donc là,
Il faut voir qu'il y a une démission de nos États vis-à-vis de leur système éducatif. Maintenant, pour revenir au Niger, moi je pense que le contractuel n'est pas un type d'enseignant qui est différent de l'enseignant titulaire ou de tout autre enseignant. Le contractuel est un enseignant ordinaire. Il est un enseignant comme tous les... Mais le contractuel est venu à un moment où l'État nigérien a adopté une politique qui fait de lui un contractuel. Et on était passé, vous l'avez rappelé, pendant 5 ans du volontariat au contrat. Et ce sont les volontaires qui ont été transformés en contractuels. Et je vais rappeler au camarade Issou Arzik que lorsqu'il s'est agi d'aller vers le contrat, tout le monde au niveau du corps enseignant était en réalité contre la contractualisation. Je me rappelle, il y avait des mots d'ordre qui avaient empêché aux volontaires de signer le contrat. Les choses étaient suspendues. Il y a eu des manœuvres du gouvernement pour amener les enseignants. Je connais des enseignants qui étaient venus à Niamey à cause de ce mot d'ordre. Parce que des enseignants ici ont refusé de signer le contrat. Le gouvernement a fait appel à d'autres qui étaient à l'intérieur, qui étaient dans le vœu de se retrouver à Niamey. Ils étaient venus signer le contrat. Ça, c'était un mot d'ordre général. Le contrat, en réalité, a été imposé par le gouvernement.
Mais c'est mieux que le volontariat.
Je ne vois pas. Moi, je ne fais pas de différence entre le contrat et le volontariat. Je vous dis que c'est presque la même chose. C'est des enseignants qui avaient fini leur formation initiale, qui étaient venus pour être recrutés, mais il se trouvait que le gouvernement a besoin de beaucoup d'enseignants, d'un grand nombre d'enseignants, pour sa politique d'éducation de masse, qui était malheureusement contre la question de la qualité. Donc il fallait se débrouiller pour recruter beaucoup d'enseignants à moindre coût. Voilà les raisons du contrat. Maintenant, par rapport aux défis, moi, j'ai voulu connaître d'autres défis que ceux qui se posent. Aujourd'hui, les défis qui se posent à notre système éducatif sont de 4 ordres.
Rapidement.
Il y a la question des formations. Il y a 2 types de formations, la formation initiale et la formation continue. Les camarades Arzik viennent de parler. Au niveau des écoles normales, il faut revoir la formation initiale. Je sais que le gouvernement est en train de faire des efforts par rapport à ça. Mais maintenant, sur la question de la mise en œuvre de ces efforts, comment ça se passe? Il faut se poser des questions. Maintenant, la formation continue sur le terrain. Là aussi, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les défis restent à relever. Et l'autre chose, c'est la question cruciale des conditions de vie et de travail des enseignants. Ça, c'est une question incontournable. Pour avoir la qualité, il faut forcément revoir les conditions de vie et de travail des enseignants. Au-delà aussi, il y a la condition matérielle, les conditions matérielles du monde sur le terrain. Vous n'êtes pas seul de savoir que si on va sur le terrain, il faut faire un tour, aller à quelques kilomètres de Niamey. Vous allez trouver les conditions dans lesquelles les enseignants sont en train de travailler. Ces 4 défis, il faut les revoir. Moi, je suis toujours sur la question du forum. Il faut aller vers un forum parce que tout le monde est unanime que ça ne va pas et poser les questions et faire des débats et acter tout ce qui va être arrêté et les mettre en œuvre. Si un acteur refuse d'aller dans le sens de ce qui a été arrêté, que les autres l'interpellent. Comme je l'ai dit, on ne peut pas vouloir faire cavalier seul pour dire que tu vas assainir le système éducatif. Ce n'est pas possible.
Maman Salia Ibrahim, cette année, la priorité reste et demeure la stabilité de l'année scolaire. Comment avoir une année scolaire 2018-2019 stable quand on sait que le retard dans le paiement des pécules, des contractuels et des allocations pour les élèves pèse dans cette instabilité de l'école?
Moi, je pense que la première chose, c'est vraiment le retour aux fondamentaux. Depuis un certain temps, et les camarades et témoins, depuis peut-être 2 ans ou 3 ans, nous sommes dans un partenariat. Je parle ici au nom des syndicats que je représente. Nous sommes dans une rupture de partenariat sincère avec le gouvernement. Je pense que c'est un terrain où c'est des partenaires qui sont là en train de travailler, les enseignants, le gouvernement qui a en charge la bonne gestion du système et aussi les parents d'élèves et les élèves qui attendent des résultats dans le cadre de la mise en œuvre de ce qui est de notre système éducatif. Mais malheureusement, depuis 2 ans, bientôt 3 ans, nous sommes dans un partenariat biaisé avec le gouvernement. Et cela ne peut pas, en aucun cas cela ne peut. Il y a des revendications qui sont là. beaucoup de revendications. En réalité, tout est défi. Et il faut que le gouvernement compte sur la bonne foi du partenaire pour pouvoir créer la stabilité dans le système. Les revendications sont là. Les revendications ne sont pas satisfaites. Le gouvernement a pris des engagements clairs partout avec les partenaires, un peu partout. Et les revendications là ne sont pas satisfaites. Il faut l'indulgence, à mon avis, du partenaire pour qu'on puisse aller vers la stabilité. Maintenant, au-delà de cette stabilité qui ne peut être que, à mon avis, temporaire et précaire, il faut aller vers la résolution des problèmes. Moi, je suis content aujourd'hui de parler, d'entendre parler de la fin de la contractualisation. Ça fait partie des solutions qu'il faut pour amener la stabilité au sein du système éducatif.
La loi d'orientation du système éducatif nigérien, Lozen, définit l'éducation comme une priorité nationale qui vise le développement des capacités intellectuelles, physiques et morales, l'amélioration de la formation en vue d'une insertion sociale et professionnelle et le plein exercice de la citoyenneté. Et que l'éducation soit formelle, informelle ou non formelle, elle a pour principaux objectifs la socialisation et la formation de l'enfant. Kasmissa, la Lozen à son article 57, stipule que les parents d'élèves, par leurs représentants, participent à la gestion et à l'animation des établissements. Ils participent aux différentes instances délibérantes des établissements d'éducation de base et d'enseignement moyen. Est-ce que les parents d'élèves sont aussi responsables de la déliquescence du système éducatif nigérien? Kasumisa.
Merci beaucoup, M. Mokhtar. Mais avant peut-être de flasher sur ça, il y a mon jeune frère Salia qui a évoqué
rapidement.
Voilà, très rapidement. Par exemple, lorsqu'il parle des états généraux, je pense qu'on n'a plus besoin des états généraux de l'éducation. On n'a plus besoin de forum de l'éducation. Le forum de 2012, je ne sais pas si les Saliens ont participé. En 2012, le gouvernement de la 7e République avait organisé avec la société civile active en éducation un forum national sur le système éducatif. Tout ce qui est en train d'être fait, et même souvent contesté par les acteurs, même la société civile active en éducation a été décidé au forum. Et donc ça, il faut aller prendre les documents du forum. Et même, je ne dis pas seulement que c'est seulement les syndicats qui ne suivent pas ça, même au niveau de certains ministères, il y a beaucoup de cadres aujourd'hui qui ignorent les recommandations de ce forum, le plan de mise en œuvre des recommandations de ce forum et le plan de suivi en encore par rapport à ce forum-là. Donc, il faut chercher vraiment la documentation. Elle est disponible dans tous les ministères et tous les partenaires avaient eu des copies qui ont été distribuées. Maintenant, par rapport à la question de l'APE, de la participation des parents d'élèves, vous allez retrouver que la Lozen, elle n'a fait que reprendre le souci de la responsabilisation qui a été édictée aussi de l'article 26 de la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quand vous prenez, vous allez voir la responsabilité des États et en même temps de tous les citoyens par rapport à la question du droit à l'éducation. Et lorsque nos États font l'option de choix de l'éducation pour tous, on est obligé, qu'on soit parent d'élève, qu'on soit enseignant, qu'on soit élève, qu'on soit PTF ou un dirigeant, d'avoir un autre regard sur le système éducatif. Le droit à l'éducation nous oblige à accepter tous les enfants à l'école. Parce que si sur cette table-là, on nous demandait vraiment de revenir à un système où, selon les capacités de l'État, il faut choisir l'option de mettre le minimum d'enfants parce que tous les enseignants qui sont formés dans notre pays-là, voilà leur nombre, voilà les établissements, voilà les besoins en éducation. Qui de Arzika Issoufou, de Mokhtar, de Salah ou de Kassoum accepterait si on demandait à deux parmi nous d'accepter que nous, nos enfants, on va les sacrifier qu'ils ne soient pas à l'école et que les enfants des deux autres là, eux, ils peuvent trouver des places. Il n'y a personne qui accepterait que son enfant soit sacrifié pour que les enfants des autres puissent aller à l'école. Donc, l'option de choix de la contractualisation, elle a été imposée à tous les États, c'est pas seulement le Niger. Et tous nos États n'avaient un enseignant là. On le fabrique. Quand tout à l'heure, Arzika parlait de ce que nos écoles normales. Mais les écoles normales, il faut ouvrir des capacités d'accueil. Il faut créer beaucoup d'écoles normales partout. C'est vrai, aujourd'hui, le Niger a fait vraiment des efforts pour avoir une école normale dans tous les chefs-lieux des régions, y compris en ayant à Magaria, Tessawa et Douchi. Il faut aller au-delà. Le marché du travail de l'éducation est énorme. Quand vous regardez le taux d'admission, vous regardez le taux brut de scolarisation, vous regardez le taux d'achèvement par rapport aux acquis scolaires, alors c'est extrêmement triste. Et tant que nous n'allons pas nous résoudre à dire que ce n'est pas moi quand les gens parlent, moi je suis enseignant. Moi, je sais que les éléments de motivation pour des résultats, pour un bon enseignement de qualité, ce n'est pas le salaire. Le salaire vient.
Il y a la vocation.
C'est d'abord la vocation. Et c'est pour cela, avant, pour avoir une vocation, mais vous ne pouvez pas avoir une vocation tant que vous n'avez pas une formation initiale. Vous ne savez pas ce que vous faites. Mais quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il est là, ce qu'il fait. Tout à l'heure, a commencé à énumérer un standard minimum qu'il faut à la sortie de l'école normale.
Kasumisa, l'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. Victor Hugo, 1802-1885. Qu'entend-on par partage du coût à l'éducation?
Très bien. C'est pour revenir à cette responsabilisation. Parce que pour être responsabilisé, les parents, ils doivent être regardants sur d'abord le dispositif qu'on met à l'école. Donc le premier, c'est d'abord l'enseignant qu'on amène au village. C'est l'enseignant qu'on met dans la classe. Tout le débat que vous allez faire, les parents ont beau mettre de l'argent, ils ont beau prendre leurs enfants, les tirer la main pour les amener dans la classe et revenir les chercher. Venir même écouter ce que les enfants font. Tant que vous n'avez pas un bon enseignant, c'est de l'argent
jeté à la fenêtre. Tout tourne autour de l'enseignant.
Tout tourne autour de l'enseignant et c'est pourquoi nous disons qu'un enseignant, d'abord la première des choses, au niveau des écoles normales, il y a tellement d'effets parce qu'il s'agit de compétences. Comment donner les compétences nécessaires à cet enseignant? Tout le monde doit y veiller pour qu'au moins un enseignant sorte avec les 5. La première, c'est la capacité de planifier. Un enseignant qui ne sait pas planifier son année de cours, ça, c'est la première compétence. La deuxième, c'est celle de préparer sa classe. Alors, qu'elle a dit tout à l'heure, des enseignants qui ne savent même pas préparer. Et ensuite, la troisième, c'est la conduite de l'activité enseignement-apprentissage. La quatrième, c'est pouvoir s'évaluer. Parce que lorsque un enseignant évalue les élèves, il s'évalue lui-même. Et la cinquième, c'est sa capacité de remédiation devant sa défaillance. Et c'est pour ça maintenant, on amène d'autres effets qui peuvent ajouter pour faire un bon enseignant, dont l'effet infrastructure. Que ce soit des paillotes, est-ce que c'est des bonnes paillotes où il n'y a pas de risques? Et ensuite, le mobilier, est-ce que vraiment ils sont assis comment? Si c'est des nattes, c'est des bancs, c'est des tables bancs, comment on le fait? Ensuite encore, il y a l'effet curriculum. On regarde les programmes. Un curriculum, quand est-ce que le jeune s'est doté d'un curriculum? C'est en 2012. Le PD2 a été mis en œuvre en 2002. Il a fallu 10 ans après pour que nous ayons un curriculum. C'est du curriculum qu'on fait le programme. C'est du programme qu'on tire le contenu éducatif. Et c'est le contenu qui permet à n'importe qui de proposer des supports didactiques. Les manuels dont certains enseignants sont des esclaves. Ils pensent que c'est le manuel. Le manuel, c'est un support, comme l'Internet que je peux consulter. Et maintenant, au-delà de ça, vous avez l'effet management. Comment on assoit une dynamique partenariale au sein de l'école? Là, les parents interviennent. Comment dans une école, on peut asseoir des COGES pour que les parents assument cette responsabilité dont vous faites allusion au niveau de l'article 57 de la Lausanne. Comment on assoit ça avec les délégués de l'école, les représentants des enseignants et à l'échelle nationale, comment les syndicats interagissent, comment ils apportent leur contribution par rapport toujours à la vision de comment on peut sortir un meilleur produit. Cette dynamique partenariale, c'est un effet. Ensuite, la gestion scolaire, comment on gère l'établissement? De regarder maintenant l'administration, qui on nomme comme administrateur? N'importe qui ne peut pas être chef d'établissement, ce n'est pas possible. Nous sommes des enseignants, on est des administrateurs. Maintenant, il y a un effet soutien pédagogique. Est-ce que le chef d'établissement aujourd'hui, est-ce que c'est un bon chef? Quelqu'un qui n'a pas une formation minimale ne peut pas assumer l'encadrement pédagogique de proximité. Est-ce qu'il y a le suivi pédagogique des inspecteurs, des conseillers pédagogiques? Et est-ce que la langue qui est utilisée, ça c'est un autre effet. La langue d'utilisation, en train de citer ce qui fait un bon maître. Maintenant, les parents d'élèves, ils sont indispensables et surtout que le forum de 2012 a bien traité la question de transfert de compétences et ressources aux collectivités.
Youssoufou Arzika, avant, l'enseignant du village était un modèle. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Qu'est-ce qui explique cet état de fait rapidement?
Merci bien rapidement. Moi, je voudrais revenir sur le forum d'octobre. Je crois que c'est en octobre 11-12. On a fait le forum au niveau du palais de congrès. Mais la non-mise en application de ce forum, là, pas des organisations de la société civile, parce que je me rappelle, on a passé après ce forum 2 semaines au niveau de palais des sports et de l'académie des arts à faire le tableau de suivi, le plan de mise en œuvre, les coûts et tout ce qui s'ensuit, les imputations, c'est-à-dire les responsabilités. On a envoyé le travail au niveau de la primature où une brochure a été sortie avec tous les acteurs. Vraiment, tout a été bien planifié. Mais malheureusement, depuis lors, nous on a les documents, mais la mise en œuvre, c'est pas de notre pouvoir. Le cabinet premier ministre devrait appeler les acteurs cités dans ces documents-là irresponsabilisés, mais ça n'a pas été fait à cette date. En tout cas, depuis lors, rien n'a été fait. Donc, si au moins que ça avait été mis en œuvre, peut-être certaines réactions n'auraient pas eu lieu et le fait qu'on ignore ce document-là. Or, à l'époque, je vais le dire, ce qui avait été mis beaucoup en avant pour qu'on ait une école stable, c'était justement la question du respect des engagements pris par l'État. Tous les acteurs étaient unanimes que s'il y a instabilité à l'école,
fondamentalement, essentiellement, c'est parce que l'État, le gouvernement signe des accords et il ne les respecte pas. Le Premier ministre avait pris l'engagement l'année-là de faire, je crois, de l'année 2014, l'année de l'éducation. Bon, il s'est trouvé encore que le document de mise en œuvre du forum, des conclusions du forum, franchement, a été délaissé. Donc, ce qui fait que, sinon, certains débats n'auraient même pas eu lieu.
Il se faut dire maintenant, pourquoi l'enseignant n'est pas un modèle aujourd'hui dans les villages.
Vous savez, tout ce que nous avions développé ici autour de cette table a concouru justement à ce que l'enseignant... Un enseignant qui ne fait pas bien son travail, il va pas être respecté. Même quand il le faisait, je vais vous dire, lorsqu'on a commencé à créer les cases de santé dans les villages, savez-vous que l'infirmier était mieux aimé que l'enseignant? Même si l'enseignant faisait très bien son travail, en tout cas, l'infirmier était chou par la population. À plus forte raison, lorsque l'enseignant n'est pas doté, d'abord, il est méprisé par son inspecteur. Il faut le dire, l'administration a été essentiellement, je ne dis pas sur toute la ligne, essentiellement à la base du mépris que nous sommes en train de subir à l'heure actuelle. Et vous avez vu des vidéos, des audios. Depuis cette affaire de l'enseignant n'a pas de niveau, il n'a pas pu compter le nombre de canaris. C'est l'administration qui a commis cette erreur-là. Et c'est parti. Il y a des écoles bombounées, nous sommes des enseignants, on nous amène les surdoués. Irmbong, et oui, nous on va les rendre cancre. C'est ça l'école nigérienne, on résume l'école nigérienne à cela. Je crois que nous sommes, nous, en tant que structure syndicale, en train de nous battre pour la révolution de cette image-là. Il faut que le gouvernement comprenne que ça va dans son intérêt, que l'enseignant soit respecté. Sinon, il a beau investir des diamants dans l'école. Lorsque c'est lui, le moteur-là, n'est pas dans des conditions psychologiques du tournée. Le véhicule va s'arrêter ou il roulera en rentrant.
Maman Salia Ibrahima, le Niger s'est engagé à travers l'objectif numéro 4 des ODD, objectif de développement durable, d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les potentialités d'apprentissage tout au long de sa vie à l'horizon 2030. Le Niger peut-il être au rendez-vous?
J'aurais voulu que mon camarade, mon grand frère, et Issouf Arzika disent vraiment ouvertement aux camarades et grands frères aussi, Kassoum Issa, qu'en réalité, le forum de 2012 là, je ne peux pas penser que tout ce qui est en train d'être fait a été recommandé par le forum de 2012. Parce qu'il faut voir quand les camarades... Moi, je n'ai pas participé. Mais c'est que le forum là ne va pas demander de résilier des enseignants contractuels, des milliers. Le forum ne peut pas demander ça. Le forum peut demander de les former, de ne plus recruter des enseignants sans niveau, comme le gouvernement est allé faire pendant des années. Le forum, non, non. C'est, je réponds à... Non, okay. Camarade, Issa Kassoum a bel et bien dit tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est dans le cadre du forum. Okay, oui, donc je le prends au mot. Le forum ne va pas demander de continuer à observer les retards dans les paiements. Le forum ne peut pas demander de ne pas respecter les engagements. En 2016, les contractuels avaient accumulé 5 mois d'arriérés. C'est lors de la lutte qu'on a pris le micro pour dire que on va les payer. Le forum ne peut pas recommander ça. Donc vraiment, moi je tiens à mon autre forum. Maintenant, par rapport à l'horizon 2030, moi personnellement, je pense que c'est possible. On est en 2018. Moi, je pense que d'ici 2030, on peut oublier tout ça là.
Kassoum Issa, vous avez 30 secondes rapidement.
C'est même trop 30 secondes. Juste pour apporter une clarification à mon frère Salia qui va vérifier dans le document, s'il ne l'a pas, on va lui le donner. Le forum a décidé du kit scolaire jusqu'au le gouvernement déjà l'a mis en œuvre. Les manuels scolaires au primaire, on les a achetés. Le gouvernement en a acheté pour amener dans les écoles. Et au secondaire, il n'y en avait pas. On a commandé des hachettes qu'on est en train de donner dans les établissements. Les bibliothèques, non seulement il y a la formation de tous les bibliothécaires au Niger, avant il n'y en avait pas. Et l'équipement des bibliothèques en train de suivre les laboratoires. Leur équipement, il n'y en avait pas. Les laboratoires étaient transformés en salles de classe. Aujourd'hui, on a repris les laboratoires. Les infrastructures, on a commencé à faire les classes en R1. Tout ça, ce sont des décisions du forum pour un meilleur management. La formation initiale, les ENI qui ont été créés partout. L'école normale supérieure Amir Sultan, qu'on a rouvert la filière des DAPS et des CAPES. Maintenant, la question de l'évaluation des enseignants, qui a été contestée, ça lié par vous, par vos camarades. La sécurisation de l'environnement scolaire, ça a été fait. La dynamique partenariale, comment le gouvernement doit respecter ses engagements et vous aussi respecter parce que, mais vous ne pouvez pas en tant que partenaire penser que c'est seulement le gouvernement qui est responsable lorsque les résultats scolaires sont bas. Non, c'est pas pour... Tout le monde a sa responsabilité.
Tout le monde a sa responsabilité. Nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Kassou Missa, ancien syndicaliste et ancien secrétaire général adjoint du ministère des Enseignements secondaires. Issoufou Ardika, secrétaire général du CNEN et coordonnateur de la FUSEN. Et Mamana Salia Ibrahim, co-coordonnateur de la Synergie Cause Niger SINASEB. Merci à nos invités et merci à vous tous pour votre fidélité au programme du Studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.